Bonjour Julien Dufresne Lamy.
Bonjour.
Merci d'être avec nous pour ce roman. Nous suivons avec vous deux histoires distinctes. Celle de jeune chanteuse et danseuse de K-pop et celle d'une femme qui semble être prise au piège dans un appartement filmé 24 heures sur 24. Deux histoires avec comme point commun les fans, ou plutôt les voyeurs, comme vous les appelez. Alors pourquoi avoir choisi de dénoncer ça ?
Alors je sais pas si je le dénonce, en tout cas j'essaie de le mettre en mots, de le mettre en scène. Moi ce qui me fascinait à travers effectivement la culture coréenne, parce que c'est d'abord avant tout un livre sur le monde un peu fou et un peu vertigineux de la Corée, c'est peut-être effectivement cette fascination un peu à outrance, cette fascination un peu radicale. Et j'avais envie de mettre en parallèle, j'avais pas envie d'écrire un livre uniquement en fait dédié et centré sur le monde de la K-pop qui paraît être un monde comme ça un peu pour aficionados et réservé aux aficionados. Et j'avais envie effectivement avec l'histoire de cette femme enfermée, ce sont deux histoires vraies, hein, ces deux personnages existent vraiment, on peut retrouver leur visage et leur frasque sur internet, avec l'histoire de Chipcha, donc cette femme qui a effectivement été recluse dans son appartement pendant 20 ans et filmée sur internet tous les jours. J'avais effectivement envie de montrer un peu en miroir un peu notre société du spectacle et notre soif un peu comme ça permanente de curiosité, de un peu de fascination et d'obsession pour l'autre dans ce qu'il représente de différent sur les réseaux sociaux.
Et vous le dites même mot pour mot, la Corée est un pays de voyeurs. C'est très fort ça.
C'est un pays. En plus, c'est vraiment pas négatif dans ma bouche. Hein. C'est-à-dire que moi, j'ai été passionné par le pays. J'ai appris la langue pendant des années avant d'y aller. J'ai quand même mené une enquête avec beaucoup de passion et de déférence. Mais quand je dis que la Corée est un pays de voyeurs, enfin, je pense que c'est le cas d'ailleurs pour n'importe quel pays. Mais c'est vrai que notamment les fans là-bas ont effectivement un rapport, je pense, à leur idol. Qui dépasse, je pense, le rapport aujourd'hui du fan un peu occidental à l'égard de la star occidentale, parce que déjà le chanteur de Corée n'est pas en fait qu'un chanteur, c'est une idol. Donc pour eux, c'est vraiment le plus haut statut social en Corée. Hein, c'est vraiment l'idée de l'équivalent peut-être du demi-dieu ou en tout cas du dieu vivant. Et donc ils ont un rapport comme ça presque déjà éternel. C'est-à-dire que l'idol, même s'il n'est plus en activité, sera respecté en fait à vie pour avoir accompli ce qu'elle a accompli, c'est-à-dire des années d'entraînement dans une école. Enfermée dans une école pendant 5 à 10 ans.
On va y revenir tout à l'heure.
Voilà.
Sur ça.
Et donc forcément que ces fans sont comme ça très très laudatifs et très respectueux de ces personnalités un peu à part.
Et vous parlez justement de cette culture asiatique et plus précisément coréenne, thaïlandaise aussi un petit peu, car vous êtes extrêmement précis sur les termes. Vous parlez aussi de tout ce qui est traditionnel. On sent que vous avez aussi un respect pour ce peuple.
Bah, c'est-à-dire que j'avais absolument pas envie d'incarner comme ça l'occidental un peu jugeant et un peu condescendant qui vient un peu avec ses gros sabots dans la culture de l'autre et avec mes préjugés forcément m'emparer un peu comme un vampire d'histoires comme ça un peu croustillantes, un peu alléchantes. Moi quand j'écris j'ai besoin aussi de comprendre l'autre, de le respecter. Je pense que l'empathie c'est le cœur vraiment de l'écriture et de la littérature, et donc j'avais envie et j'avais besoin de me sentir immergé dans une culture pour ensuite l'incarner à l'écrit.
Et pour Chicham, justement, est-ce que vous n'êtes pas devenu un peu voyeur à un moment pour justement essayer de comprendre les principes de ces sites internet où on peut voir les gens 24 heures sur 24?
Je crois que c'est toute la contradiction et le paradoxe et la folie de ce livre, c'est qu'effectivement ça m'a rendu très spectateur, au sens où j'ai écumé pendant des mois et des mois, des nuits entières, effectivement, toutes les captations et les anciens live streams de Chipcham, où j'essayais de comprendre, un peu de mener une enquête pour savoir finalement pourquoi elle a été recluse tant d'années. Et c'est pareil à l'égard de ces groupes de K-pop que Moi, j'y connaissais absolument rien. Bon, bah maintenant, je vais voir des concerts de K-pop, par exemple.
Surtout que vous parlez de Blackpink, qui est le groupe le plus connu aussi en Occident.
Absolument, c'est on dit aujourd'hui que c'est le plus grand groupe de l'histoire de la musique, même devant les Beatles, en termes de records comme ça qu'elles atteignent. Donc, c'est quand même assez dingue et que finalement, personne ne le sait, à part finalement les publics qui les adorent. C'est quand même des milliards et des milliards de vues sur YouTube. Et c'est vrai que je trouve qu'il y a dans ce groupe-là une symbolique de l'empowerment féminin, une sacralisation peut-être de la célébrité, de la gloire qu'on n'a plus vraiment chez nous avec nos stars américaines ou occidentales.
Mais surtout, on ne voit pas les coulisses. Et vous mettez en avant les coulisses des écoles justement pour devenir ces stars. C'est vraiment impressionnant et ça fait même peur.
C'était vraiment pour moi le point de départ et vraiment le cœur du texte, c'était effectivement de mener une enquête là-bas sur ces écoles de formation, hein, qui sont aussi les labels discographiques qui ensuite lancent les groupes, mais qui d'abord les forment, hein, vraiment avec une discipline de fer et au cordeau pendant des années. Quand ils rentrent dans ces écoles, ces enfants ont environ entre 10 et 12 ans, et ils signent ce qu'on appelle des contrats d'esclaves, hein, c'est le vrai nom du contrat, où en fait ils sacrifient leur vie de famille, leur vie, leur scolarité déjà, leur lien avec leurs amis pour faire partie de ce qu'on appelle des trainees, donc des stagiaires, pour apprendre en fait le chant et la danse pendant des années. Et finalement, pas apprendre tellement le chant et la danse, mais apprendre, je pense, les mœurs parfaites d'une idole, hein, d'être finalement une figure exemplaire en Corée. Et d'être, une figure exemplaire. Ouais.
Et pour essayer surtout, parce que dans le lot, il y en a très peu qui finalement y arrivent.
Hein. Oui, c'est terrible. Hein. C'est, les éliminations se font par mois. En fait, il faut imaginer une sorte de pop star ou de star academy à l'échelle de toute une enfance, de toute une jeunesse. Donc effectivement, oui, il y a 4-5 personnes qui sont ensuite choisies au bout du tunnel de toutes ces années. Ouais.
Et c'est la torture par l'espoir, avec une extrême résilience. Et il y a même un mot pour ça.
Alors j'ai un peu perdu mon coréen. Mais effectivement, vous avez raison, c'est l'expression en coréen pour expliquer cette résilience et cet acharnement de ces adolescents à mener comme ça tambour battant autant d'années de travail sans être certain en fait d'être choisi, et de finalement pourquoi on continue à, comme ça tous les jours de 5h du matin à minuit à apprendre et apprendre et apprendre. C'est effectivement cette expression qu'on peut traduire par la torture par l'espoir, vraiment dans le but vraiment peut-être de d'être choisi.
Le mot c'est peut-être Wimangomun, quelque chose comme
bien,
ça
je voilà. Fait ouais.
Et dans votre roman, les filles disent même tous s'il vous plaît, aimez-nous. C'est fou de demander ça.
C'est vraiment un pays qui est fondé sur l'idée de la hiérarchie, du respect. Et je crois que ce qui distingue vraiment l'idole de la star américaine, c'est vraiment l'idée de modestie. Quand ces jeunes filles apprennent les arts, elles apprennent surtout à faire, c'est une expression aussi là-bas, à faire bonne fille, à être vraiment en fait un peu des saintes, un peu parfaites, un peu impénétrables. Et quand elles sont enfin choisies, elles sont présentées toujours à des salles comme ça, comble d'investisseurs. Enfin, c'est vraiment une industrie vraiment très particulière. Et donc la première chose qui sort de leur bouche, c'est effectivement cette idée de supplication et on a travaillé dur pour vous, on va continuer à travailler dur, donc s'il vous plaît, soutenez-nous et aimez-nous.
Ouais. D'où vous viennent toutes ces informations à la fois sur les Blackpink et à la fois sur Cheap Chan, puisque c'est méconnu, mais justement vous donnez plein de détails. D'où ça vient tout ça?
Ça vient d'un travail que j'ai mené sur place. J'ai enquêté de longs mois, plusieurs fois à Séoul. J'ai rencontré des anciennes idoles, des producteurs, des managers, et puis même des Coréens passionnés par ce système-là, qui pour eux, c'est un peu leur plus grande fierté, c'est la voie de réussite, la voie royale en Corée, hein, être idole. Ils savent à quel point c'est jusqu'au boutiste et sévère, et pour autant ils n'en font pas cas, car ils considèrent que c'est un peu le contre-coup de l'accélération culturelle et économique de la Corée, qui était un pays pauvre et colonisé pendant longtemps. Et finalement, ce soft power coréen qui aujourd'hui, comme ça, les mondialise un peu le pays, c'est un peu voilà leur plus grande victoire.
Est-ce que vous pensez que eux ils idolâtrent plus qu'avant, et est-ce que aussi en Occident ça peut être le cas? On peut justement aujourd'hui voir les Blackpink partout, et puis il y a d'autres groupes de K-pop. Est-ce que justement ça commence à arriver aussi un peu partout?
Alors bien sûr les idoles aujourd'hui elles sont portées au pinacle dans le monde. Un Blackpink était tête d'affiche de Coachella, le plus grand festival américain l'année dernière. Quand elles apparaissent brièvement au Festival de Cannes, 90% des postes sur le Festival de Cannes va être au sujet de ces filles-là, et non de la Palme d'Or ou des grands réalisateurs, ce qui est quand même fou. Donc l'adoration elle est aujourd'hui mondiale, oui.
Julien Dufresne-Amy, dans votre roman spectacle, vous essayez aussi de mettre une intrigue, puisque justement avec Cheap Chan, on sait jamais. Vous essayez de jouer aussi un peu avec le lecteur. On sait pas trop qui est cette personne. On a plus d'éléments. C'est un peu palpitant. C'est quelque chose aussi que vous avez voulu mettre en place. Ce côté un peu thriller, léger.
Oui, vous avez absolument raison. J'avais envie de et puis je crois que la vie de Cheap Chan est un polar. Mm-hmm. Et puis moi j'étais moi-même avec mes propres questionnements quand je la découvre par hasard, d'abord dans un podcast de France Culture, son histoire, et je regarde les premières images. Donc la première image de Cheap Chan, on la retrouve finalement couchée par terre avec les pieds relevés sur un bureau, et elle va dormir comme ça pendant 19h, et les gens vont commencer à se fédérer autour de son live stream parce qu'ils sont un peu persuadés qu'ils regardent finalement une femme soit à l'agonie, soit une femme morte. Finalement Cheap Chan va se réveiller. Et donc, rien que ça, finalement, c'est un peu le début un peu d'un thriller, oui.
Alors, pour terminer cette interview, Quel est votre prochain roman? Est-ce que vous avez déjà en tête une enquête, puisque vous vous rendez sur place, vous essayez d'avoir des éléments? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez déjà fait? Est-ce que vous avez déjà quelque chose en tête?
Je trouve que c'est toujours important. Je crois qu'un écrivain, avant d'être un écrivain, c'est un expérimentateur, c'est un observateur. Je crois qu'il a besoin d'aller sur le terrain pour enquêter. Je trouve ça toujours bien, quand on raconte l'autre, en tout cas dans l'altérité, c'est toujours un peu chouette de pouvoir, oui, l'observer, le comprendre, l'analyser. Mon prochain roman, en revanche, alors c'est aussi une enquête, mais une enquête beaucoup plus intime et beaucoup plus familiale, puisque ça racontera la vie de ma mère.
D'accord, très personnel cette fois-ci. Merci beaucoup.
Avec plaisir, merci beaucoup.